Je vous invite à prendre votre Bible et à regarder avec moi dans Jean chapitre 2. Et je vais lire du verset 1 jusqu'au verset 11. Et je voudrais vous parler de la gloire de Christ révélée. Ici, il s'agit du premier miracle que le Seigneur Jésus a accompli aux noces de Cana. Et c'est écrit 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau, changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire. Voilà d'où vient le titre de cette étude. La gloire de Christ révélée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Cela ne veut pas dire que c'est ici le début de leur croyance, mais le sens de ce mot, c'est qu'ils continuaient à croire en lui. Nous savons que ce que Dieu lui-même donne est pour toujours. Il y a une différence entre la croyance dont le monde religieux parle et la croyance que donne l'Esprit de Dieu à ceux que Christ a rachetés par son sang. Ça, c'est la véritable foi. Et une foi donnée, cette foi doit croître selon la grâce et la connaissance du Seigneur Jésus. Mais revenons à ce titre que nous allons considérer ensemble. Comment est-ce que la gloire de Christ est révélée à travers ce premier miracle? La datation exacte de ce premier miracle est indiquée par Jean. C'est écrit 3 jours après. L'Esprit de Dieu a dirigé Jean ici au début de cet évangile à donner une histoire exacte depuis que Jean-Baptiste a annoncé le Christ publiquement disant « Voici l'agneau de Dieu » et maintenant ce miracle 3 jours après. Il semble que c'était 3 jours après avoir rencontré Nathanaël, comme on a vu déjà dans Jean chapitre 1 et le verset 45. Donc Jean est en train de donner un ordre chronologique du ministère du Seigneur Jésus, nous savons que ça n'a pas continué comme ça à travers son évangile, parce que Jean lui-même a dit que s'il devait écrire tout ce que Christ a fait et a dit, que le monde entier ne pouvait pas contenir les livres le concernant. Mais il dit les choses que Dieu, par son esprit, lui a donné à écrire sont suffisantes pour que les pécheurs que Christ est venu sauver aient cette connaissance de Christ et qu'ils croient en lui. Dans Jean 21 et le verset 24 et 25, nous lisons cela. Il dit, c'est ce disciple qui parle de lui-même, qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. Nous savons que l'auteur de ces écritures que nous lisons, ce n'est autre que l'Esprit de Dieu, mais il s'est servi des écrivains comme Jean. Et il ne faut pas faire l'erreur de dire que c'est Jean qui était inspiré. Non, cette parole était inspirée. Jean était un homme comme tout autre pécheur de nature. Il avait besoin de la grâce de Dieu pour que son cœur soit attiré à Christ. Il avait besoin, comme tout autre, de la mort de Christ à son égard pour être sauvé. Il y en a dans la religion qui veulent élever ces hommes au point de les appeler des saints au-delà de tout autre. Mais nous savons, selon les Écritures, que tous ceux sont saints que le Seigneur Jésus a sanctifié et a justifié par sa mort à la croix. C'est comme ça que les Épîtres s'adressent à l'Église de Christ comme les saints séparés par la grâce de Dieu à Christ pour qui il est mort. Mais dans Jean 21-24, je continue, il dit, « Et nous savons que son témoignage est vrai. » Nous sommes en train de lire ici un témoignage oculaire de ceux qui ont marché avec le Seigneur Jésus. Parce qu'ici, dans Jean chapitre 2 et le verset 2, c'est écrit, « Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. » Donc, Jean est en train d'écrire comme ayant été un témoin oculaire. Lui-même, il a vu de ses propres yeux ce premier miracle. C'est pourquoi nous pouvons nous fier à ce qui est écrit. Mais Jean dit aussi dans Jean 21, le verset 25, « Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. » Donc, nous ne devons pas imaginer que tout ce qui est écrit ici est une histoire chronologique de ce que le Seigneur Jésus a fait ou ce qu'il a dit. C'est une histoire sélectionnée encore par l'Esprit de Dieu. Lorsque Christ a dit à ses disciples plus tard que quand il serait ressuscité et ascendu auprès de son Père, qu'il enverrait son esprit, et c'est l'esprit qui allait les diriger à la vérité et les rappeler de tout ce qui concerne le Seigneur Jésus. Ce que nous savons, c'est que ce qu'ils ont écrit concerne le Seigneur Jésus. Beaucoup lisent la Bible et en tirent d'autres leçons ou morale de ce qui est écrit, mais le but de ces écrits sont de connaître Christ et la révélation de Christ. Et c'est pourquoi il dit, si on les écrivait en détail, Jean 21, 25, je ne pense pas que le monde même pu contenir les livres qu'on écrirait. Il y en a aujourd'hui qui aiment spéculer, ils aiment imaginer ce qui n'est pas écrit. Et c'est sur ça qu'ils basent leur débat, leur discussion. Mais que cette parole nous suffit de savoir que tout ce qui est écrit est pour ceux que le Père lui-même a choisi et pour qui le Seigneur Jésus est venu dans le monde. Alors, comment est-ce que nous voyons, revenant dans notre texte dans Jean 2, la gloire de Christ révélée? Premièrement, je dirais, nous voyons la gloire de Christ révélée à sa mère. Le premier point que nous voyons ici concerne la mère de Jésus. Là encore, il y a beaucoup qui veulent élever Marie comme la mère de Jésus dans une position de révérence. Mais nous savons que Marie était une femme pécheresse comme tout autre et qu'elle avait besoin de l'œuvre de la grâce de Dieu en elle et besoin de la mort de Christ à son égard comme tout autre. Nous ne pouvons pas élever Marie au-dessus d'autres personnes pour dire que oui, c'est elle qui a enfanté le Seigneur Jésus, donc elle devait être sainte en elle-même, d'une manière que d'autres pécheurs ne sont pas. Mais si nous lisons le témoignage de Marie elle-même dans l'Évangile selon Luc, nous voyons qu'elle a appelé le Seigneur son sauveur. Elle indique son besoin d'un sauveur dans Luc chapitre 1 et à partir de verset 45, c'est écrit « Heureuse celle qui a cru parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Quoique le Seigneur Jésus est sorti du sein de Marie, Marie avait besoin de la révélation de la gloire de Christ en elle pour qu'elle aussi soit croyante. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Comment est-ce que un pécheur arrive à croire en Christ? C'est selon ce que le Seigneur lui-même dit au cœur par son esprit à ce pécheur concernant les choses qu'il est venu accomplir, c'est-à-dire sa vie parfaite à l'égard des pécheurs et sa mort efficace à la place des pécheurs. Vous savez, pour accomplir la loi, ça a exigé les deux parties, l'obéissance parfaite. Christ devait être l'agneau sans tache, sans blâme, et aussi sa mort efficace. La loi exige la mort des pécheurs. Alors si Christ est venu prendre la place des pécheurs, il devait satisfaire à la justice de Dieu, non seulement dans les préceptes de la loi, mais aussi dans sa pénalité, la peine de la loi, c'est-à-dire la mort. Et les deux, le Seigneur Jésus a accompli fidèlement. Mais notez le témoignage de Marie dans Luc chapitre 1 et le verset 46. « Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur. » Elle n'aurait pas s'adressé à Dieu comme son sauveur si l'Esprit ne lui a pas révélé son besoin en tant que pécheresse. Donc, c'est pourquoi c'était nécessaire même ici, parce qu'il faut savoir que Christ était soumis à ses parents durant toute son enfance, mais lorsqu'il est maintenant venu ici pour commencer son ministère d'une manière publique, c'était nécessaire que Marie se rappelle encore que cet enfant, Jésus, qu'elle a élevé, n'était pas en fait son enfant. C'est le Fils de Dieu. C'est Dieu qui a opéré ce miracle pour que Marie, étant une vierge enceinte, ait fait enfanter cet enfant qu'on appelle Jésus. Mais elle devait toujours se rappeler que ce n'était pas son enfant, c'était effectivement le Fils de Dieu. Alors c'est pourquoi quand le Seigneur Jésus est venu à ce mariage et sa mère était déjà là, certains supposent que Marie était là puisque c'était des relations à Marie, on ne sait pas exactement, cela ne nous est pas dit, mais elle était déjà là et c'est à ses noces que le Seigneur Jésus l'a rencontré. Donc, étant en relation avec ceux qui devaient se marier, Marie se soucie du fait qu'il n'y avait pas de vin, que déjà le vin manquait. Je sais qu'il y a certains qui essayent d'interpréter le vin d'une autre manière pour dire que c'était simplement le jus de raisin. Mais la Bible ne défend pas le vin. Tout ce que la Bible défend, c'est d'être saoulé en prenant trop le vin. Il faut savoir que le vin faisait partie des repas, c'était une partie de cette culture. Et souvent parce que l'eau n'était pas potable. Alors, le vin accompagnait non seulement les repas de tous les jours, mais surtout ces noces, ces fêtes. C'était une manière de se jouir. Et donc, le vin n'est pas le péché. Il y en a qui lisent ça, ils veulent dire non, mais Christ n'aurait jamais servi le vin. Mais nous devons prendre la Bible telle que c'est écrit ici. Et le mot qui est utilisé, c'est le mot « le vin ». Mais nulle part nous voyons à travers le ministère de Christ ni de ses disciples où ils se sont saoulés en buvant le vin. Voilà le problème. Le péché n'est pas dans le vin, le péché se trouve dans le cœur de l'homme qui ne sait pas se maîtriser. Et donc, voilà le péché. C'est toujours dans le cœur. Ce n'est pas dans un objet quelconque qu'on prend dans notre cœur. Christ lui-même, dans Marc chapitre 7, en adressant les règlements des pharisiens, a touché à cela, où il leur dit que ce n'est pas ce qui entre par la bouche de l'homme qui peut le souillir. Ça, c'est Marc, chapitre 7, et cela à cause des traditions qu'ils avaient. Dans Marc 7, nous lisons verset 5, et les pharisiens et les scribes lui demandèrent, pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures? Et il y a une connexion entre ces traditions que nous voyons ici et ce qui est écrit dans Jean chapitre 2 avec les vases de pierre qui contenaient l'eau. Nous avons lu ça dans le verset 6. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. C'est effectivement cette eau qui était mise à part pour la purification des Juifs que le Seigneur maintenant prend et il transforme en vin. Ça, c'est le miracle et il y a une signification en cela. Mais revenons à ce texte dans Marc 7 où le Seigneur lui-même dit que ce n'est pas ce qui rentre dans l'homme qui peut le souiller. Parce qu'ils étaient attachés à ces traditions de la purification, c'est-à-dire si un pharisien allait au marché et il y avait une interaction avec le monde, arrivé à la maison, il devait se purifier. Voilà pourquoi ces vases d'eau étaient là. C'était pour se laver les mains d'une manière cérémoniale, afin de se purifier maintenant de la sue du monde. Ils s'imaginaient que marchant dans le monde, ils allaient se souiller. Mais voilà ce que Christ dit d'abord dans le verset 6 de Marc 7. Jésus leur répondit, « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » C'est en vain, notez, c'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'homme. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il le dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Maintenant, si on regarde le verset 14, ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui, il lui dit, écoutez-moi tous et comprenez, il n'est hors de l'homme rien qui entrant en lui puisse le souiller, mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Alors, quand on parle de ce sujet du vin, le péché n'est pas dans le vin. Il faut imaginer que le vin fait partie de la création de Dieu. Et Paul, lui-même, en écrivant à Timothée, disait que tout ce qui était consacré par la prière et la reconnaissance doit être reçu de la même manière avec cette grâce que Dieu donne. Ce n'est pas ce qui entre dans notre corps qui nous souille, mais plutôt ce qui sort du cœur. Cela démontre l'aveuglement des gens dans leur religion parce qu'ils imaginent que le péché est là, en dehors, dans le monde, donc il faut faire attention. Pourtant, le péché se trouve dans leur propre cœur et leur aveuglement, c'est qu'ils ne voient même pas leur péché. Alors, ça, c'est le contexte que nous voyons ici. Mais Marie se soucie des choses concernant ses relations, concernant les noces, etc. C'est-à-dire, voilà une occasion maintenant pour Christ de l'enseigner de nouveau, de se révéler en elle de nouveau, comme à ses disciples. Il faut savoir que la révélation de Christ au cœur n'est pas simplement une seule fois. Bien vrai, il y a le début par la régénération, par la nouvelle naissance que Christ révèle en ceux qu'il est venu sauver. Mais cette révélation continue. C'est pourquoi nous lisons la parole de Dieu et nous demandons l'Esprit du Christ de nous diriger en nous ouvrant les yeux chaque fois. Parce que c'est au fur et à mesure que cette lumière que Christ nous donne, Christ en nous, la révélation de Christ, mais que cette lumière brille davantage et nous éclaire davantage. Ça fait plus de 30 ans maintenant depuis que le Seigneur m'a ouvert les yeux pour contempler la gloire de Christ. Mais je dois dire, je continue à apprendre. J'ai besoin de Christ et de sa révélation à travers cette parole autant aujourd'hui que le premier jour où il s'est révélé en moi. Et donc, c'était nécessaire même pour Marie de comprendre cela. C'est pourquoi dans Jean chapitre 2, lorsqu'elle s'est approchée de Jésus pour lui dire, ils n'ont plus de vin. Ça, c'est une bonne chose lorsque le besoin nous amène à Christ. Et voilà comment Christ était en train d'attirer sa mère physique, je dirais sa mère adoptive, à lui et de lui montrer son besoin. Lorsqu'il a répondu dans le verset 4, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ?» Disant « femme » de cette manière, il n'était pas en train de la minimiser en tant que mère. Nous savons que Christ a honoré la loi en toutes choses. Donc, nous savons que ce n'était pas une manière de la minimiser pour dire qu'il n'y avait pas de respect pour elle. Mais ici, le mot « femme » était une manière de lui montrer que c'est tout ce qu'elle était, une femme. Elle était un moyen par lequel Dieu a fait venir son Fils dans le monde. Alors, c'était une manière de lui dire qu'il avait maintenant une mission qui a commencé, qui dépasse sa relation avec elle en tant que fils adoptif, si vous voulez. C'est pourquoi il dit, qu'y a-t-il entre moi et toi? Elle ne pouvait pas penser qu'il est venu pour que, comme toute mère, et a la tendance de faire avec ses enfants, quel que soit leur âge, de les diriger, de leur donner des conseils. Christ est en train de rappeler à Marie ici que cette relation ne devait pas diriger ce qu'il faisait. Nous savons que selon ce que Christ a dit, il est venu pour accomplir la volonté de son Père céleste. Alors c'est pourquoi il dit ici, mon heure n'est pas encore venue. Ce n'est pas à elle de dicter quand et où il allait faire manifester sa gloire. Alors c'est pourquoi je dis que d'abord Christ est en train de manifester sa gloire, révéler sa gloire à sa mère. Et ce premier miracle avait pour but de cela, pour qu'elle contemple réellement qui il est et pourquoi il est venu. Ce n'est pas simplement pour satisfaire aux besoins physiques des hommes. Et nous savons que l'Esprit de Dieu a agi dans sa mère pour l'humilier parce que elle s'est tue en le poursuivant avec ses questions. Et le verset 5 de Jean 2, elle dit simplement au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Voilà un signe de l'humiliation que l'Esprit de Dieu apporte dans les cœurs de ceux qui lui appartiennent. Il y a une soumission complète à la volonté de Christ. Faites ce qu'il vous dira. C'est de cette manière que Christ a enseigné à ses disciples à prier que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. Nous ne sommes pas là pour imposer notre volonté sur Dieu. Plutôt, par son esprit, nous nous soumettons à tout ce qu'il nous dit. Et cela, à travers la parole de Dieu. Ça, c'est la manière de savoir que la gloire de Christ est révélé dans le cœur d'un pécheur, parce que ce pécheur est soumis entièrement à la volonté de Christ et accepte tout ce que le Seigneur nous dit. Mais deuxièmement, nous voyons dans ce passage que la gloire de Christ est révélée aux serviteurs. Donc d'abord à Marie, mais aux serviteurs. Quand il a dit aux serviteurs de remplir d'eau ses vases, le verset 7, notez, et il les remplit jusqu'au bord. Voilà encore, nous voyons la souveraineté de Dieu en dirigeant les créatures du monde. Bien vrai, ses serviteurs étaient là pour d'autres personnes, mais il faut dire que Christ se sert de toutes choses et de toute chair pour son service. Et lorsqu'il ordonne quelque chose, le monde agit. Même les hommes qui sont irrégénérés doivent faire la volonté du Seigneur. Tout provient de son trône et de sa souveraineté. Bien vrai, Christ était ici dans la chair en tant qu'homme, mais il n'a pas cessé d'être Dieu. Et donc, c'est de cette manière que nous voyons la gloire de Christ révélée aux serviteurs, parce que eux aussi, ils seront maintenant des témoins oculaires de ce miracle. Et le fait de changer l'eau en vin démontre non seulement la souveraineté de Christ, mais le fait qu'il est le Créateur de toutes choses, et c'est lui qui soutient toutes choses. Bien vrai, Dieu dans la chair, mais Christ n'a pas cessé d'être Dieu. C'est pourquoi dans Hébreux chapitre 1, nous lisons qu'après avoir autrefois, verset 1, Hébreux 1, 1, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères, par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps. Il y en a qui demandent, est-ce que nous sommes dans les derniers temps? Oui. Depuis la venue de Christ, la première fois, les derniers temps ont été inaugurés et continuent jusqu'à ce que Christ revienne. Mais Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Donc le fait que Christ ici change l'eau en vin démontre sa puissance en tant que créateur. Et c'est écrit qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, notez, et soutenant toute chose par sa parole puissante, il suffisait pour le Seigneur ici de donner l'ordre à ses serviteurs et ils ont fait ce que Christ leur a dit parce que c'est lui qui soutenait même les serviteurs. Chaque personne ici était là exactement selon ce que Christ, le souverain, le juge, a ordonné. Tout était en place exactement comme lui, il a ordonné. Et c'est écrit, alors a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Voilà l'image que nous avons du Seigneur Jésus. Et je dois dire que ça, ce n'est pas le Jésus qui est prêché aujourd'hui. Il y a un Jésus qui a une volonté et qui désire faire certaines choses, surtout selon les prédicateurs, il veut bien que tous les hommes viennent à lui, mais hélas, l'homme, maintenant, avec sa volonté, résiste. Tel n'est pas le Seigneur Jésus de la Bible. Tout ce qu'il veut, il accomplit. Tout ce qu'il dit, arrive. Voilà ce que nous devons comprendre à travers ce passage. Donc, c'est ainsi que la gloire de Christ ici est révélée aux serviteurs, parce qu'en faisant ce qu'ils faisaient, ils accomplissaient la volonté de Christ et ils ont vu eux-mêmes le résultat. un résultat surnaturel, un résultat qu'en regardant, on pouvait simplement dire que cet homme n'est autre que Dieu lui-même. Parce que seulement Dieu peut prendre ce qui est de nature et transformer ça en quelque chose d'autre. C'est ainsi que nous voyons la gloire de Christ révélée au serviteur. Mais en dernier lieu, nous voyons alors la gloire de Christ révélée à l'ordonnateur du repas et à l'époux. Parce que c'est écrit dans le verset 9, « Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, parce qu'ils étaient témoins oculaires de ce miracle, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, mais le moins bon après qu'on s'est enivré, toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Alors, quelle est la signification de cette transformation de l'eau en vin? D'abord, Christ est en train de donner une démonstration ici de non seulement sa puissance, mais de sa personne. Si vous vous rappelez bien, quel était le premier miracle que Moïse a accompli, que Dieu l'a envoyé pour démontrer qu'il était effectivement le médiateur qui devait faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Si vous regardez avec moi dans Exode chapitre 7 et le verset 20, vous allez voir ce miracle. C'est écrit, Exode 7, 20, Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel avait ordonné, comme les serviteurs aux noces ont fait exactement ce que le Seigneur leur a dit de faire. Aaron leva la verge et il frappa les eaux. Donc, le premier miracle de Moïse concernait l'eau, comme ici, c'est une question d'eau. Et c'est écrit, les eaux qui étaient dans le fleuve sous les yeux de Pharaon et sous les yeux de ses serviteurs, notez, et toutes les eaux du fleuve furent changées en sang. Sang est représenté par la couleur rouge. Ici, changé en vin. Mais néanmoins, il y a des parallèles entre les deux miracles. Cela nous rappelle alors que Christ est venu accomplir tout ce qui est écrit dans la loi et les prophètes le concernant. Moïse lui-même, avant sa mort, disait aux enfants d'Israël que Dieu allait susciter un autre prophète comme lui. Cela dans Deutéronome chapitre 18, le verset 15. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre les frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Alors, ce que Christ est en train de faire ici, dans ce premier miracle, c'est de se manifester à travers ce miracle comme celui dont Moïse annonçait. Un autre prophète comme lui, mais un prophète qui était bien au-dessus de Moïse. C'est comme Jean-Baptiste a dit, celui qui vient après moi et avant moi. Et c'est lui qui doit avoir la prééminence en toutes choses. Donc, voilà pourquoi ce miracle est significatif, parce que Christ est en train de maintenant se montrer comme celui qui devait venir et se révéler comme celui dont l'Ancien Testament parlait. Mais le fait que Cette phrase dit dans Jean chapitre 2 que qui sert le meilleur vin à la fin? Il faut savoir que Christ représente ce vin. Tout ce qui venait avant lui n'était que l'ombre des choses à venir. Mais le meilleur vin se trouve pas dans les types ou bien les symboles ou bien les figures de l'Ancien Testament. Non. Le vin, le bon vin qui est servi à la fin représente la personne et l'œuvre de Christ. Il n'y a pas de salut, il n'y a pas de rédemption dans le sang des boucs et des taureaux, mais le sang de Christ, voilà le bon vin. Cela représente que celui qui est venu à la fin des temps, dans les derniers temps, est le meilleur vin. Et une fois goûté le meilleur vin, on ne doit jamais retourner encore en arrière. Et voilà la leçon pour nous aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup que sachant que Christ est ce meilleur vin, ils préfèrent toujours continuer avec leur vase de pierre et d'eau de purification, ces cérémonies, ces traditions, et ne pas chercher toujours à goûter le bon vin qui n'est autre que Christ. Dans Colossiens chapitre 2, nous lisons à partir du verset 16 que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire. Les hommes religieux veulent nous ramener encore dans le passé, nous mettre de nouveau, toujours sous la loi et ses règlements. Mais Paul dit non. Ou au sujet d'une fête, ou d'une nouvelle lune, ou des sabbats. Il y en a qui insistent toujours qu'il y a un jour la semaine qu'on appelle le sabbat. Parfois les gens me demandent, mais est-ce que vous observez le sabbat? Pour eux, ils disent maintenant c'est le dimanche, non? Effectivement, j'observe le sabbat dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi, tous les jours, parce que Christ est mon sabbat. C'est en me reposant en lui que j'observe le sabbat, parce que Christ est venu accomplir tout ce qui concerne le sabbat. Donc, nous ne pouvons pas laisser les hommes nous juger. C'est intéressant qu'après ce miracle, il y en a qui ont cru en lui, ses disciples, mais il y a d'autres qui, maintenant, commençaient à partir de ce moment à chercher à le faire mourir, parce qu'ils ont vu en lui une personne qui détruisait leur tradition, qui dénonçait leurs observations de la loi. Ils honoraient Dieu avec leurs lèvres, mais leur cœur était loin de lui. Leur cœur était toujours dans les ténèbres. C'est pourquoi Colossiens 2, 17 dit, c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Nous ne pouvons pas retourner en arrière. Une fois goûté ce nouveau vin, donné à la fin de cette cérémonie, des cérémonies de la loi et des règlements, c'est maintenant cette vin qui est plus que tout autre. Et c'est le vin qu'il nous faut, c'est-à-dire Christ et Christ crucifié. En dernier lieu, dans notre texte, Jean chapitre 2, nous avons vu comment la gloire de Christ est révélée à Marie, la gloire de Christ révélée au serviteur, la gloire de Christ révélée à l'ordonnateur du repas et à l'époux. Mais en dernier lieu, verset 11, la gloire de Christ révélée à ses disciples. Voilà pourquoi tout cela. Parce que Christ avait auprès de lui ses disciples et il les a appelés à lui et maintenant il continue à se révéler en eux. Où c'est écrit dans le verset 11, il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Qui sont les véritables disciples?
si ce n'est ceux en qui Christ se révèle. Il se révèle dans sa gloire, sa personne, mais aussi son œuvre. Il révèle en eux qu'en eux, il n'y a aucun bien, qu'ils sont perdus sans lui, et que c'est seulement sa personne, c'est seulement son œuvre accomplie pour eux en tant que pécheurs qui les sauve. Voilà comment savoir si quelqu'un est véritablement enfant de Dieu ou non. Qu'est-ce qu'il dit de Christ? Qu'est-ce qu'il dit de lui-même? Parce qu'il a, s'il a quelque chose en lui-même à se glorifier, donc tel n'est pas un enfant de Dieu. Tous ceux en qui Christ s'est révélé donnent toute la gloire à Christ. Alors, ma prière, c'est que le Seigneur bénisse cette parole que nous venons d'entendre à sa gloire. Amen.